Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
D'habitude, Sortie de boîte reçoit des chefs d'entreprise confirmés, expérimentés, qui ont des années et des années d'expérience derrière eux. Aujourd'hui, ils sont jeunes et se lancent tout juste, ça fait quand même 2 ans. Ce n'est donc pas dans un hall de grande entreprise que j'ai été accueilli pour préparer l'émission, mais dans une maison familiale à Basse-Cour, dans le Jura, en toute simplicité. Et oui, pourquoi pas, Apple a bien été fondé dans un garage. En plus, leur produit est compatible avec les iPhones. Mais la différence avec la Silicon Valley, c'est que ce qu'ils vendent ne contient aucune technologie, juste du bois. Et ça suffit pour devenir le haut-parleur du son qui sort de votre smartphone. Un ampli en bois, c'est la base d'un travail de maturité pour 11 étudiants. La matu en poche, 3 d'entre eux ont décidé de continuer et de professionnaliser le projet. Plus on discute en préparant l'émission, plus je me rends compte qu'ils ont chacun leur spécialité, leur domaine de compétences. Du coup, entorse à la tradition, on ne va pas en inviter un seul. Les 3 sont là. Ce soir, les entrepreneurs sont en herbe, mais pas en bois, contrairement à ce que leur produit peut laisser penser. Marek Hofmeyer, Steve Rolla et Simon Lièvre sont avec nous. Messieurs, bonsoir.
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 Vous avez tous les 3 une formation technique et un CFC, Marek d'automaticien, Steve de dessinateur, Simon d'informaticien. Avant de parler un petit peu de votre produit, un mot sur votre jeune parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à la base à choisir la voie technique plutôt que des études au gymnase ?
Alors moi, je pense que l'informatique, ça m'a toujours plu. Et puis c'est naturellement que je me suis directement dirigé vers un apprentissage d'informaticien. Et puis après, je voulais poursuivre mes études. C'est pour ça que j'ai continué par la maturité professionnelle technique pour aller en HES, pour aller en haute école.
Steve, dessinateur, c'était une évidence?
Moi, je ne me voyais pas aller au lycée. Il fallait faire quelque chose de pratique et puis dessinateur. Puis après, envie de continuer. Puis après, maturité professionnelle, c'était logique.
Il fallait toucher, quoi. Il fallait que ce soit concret.
Oui, il fallait que ça soit concret.
Ouais. Maturité professionnelle, c'était logique. Vous dites pourquoi?
Parce que j'ai vu des ingénieurs bosser à côté de moi, en bossant dans un petit bureau. Et puis, envie d'aller plus loin, envie de faire la même chose, voire mieux. Quoi.
Voilà. Et du coup, Marek?
Alors, pour moi, les bancs d'école, ça n'a jamais été quelque chose qui m'attirait beaucoup. Du coup, j'étais un peu obligé de partir sur quelque chose de technique. Et l'automaticien était un métier complet et ça me semblait une évidence quand même de partir dans l'automatisation.
Et après, la Matu Pro, pourquoi c'est aussi évident?
Alors, après mes 4 ans de CFC, j'ai pensé que ça ne me suffirait pas en fait pour continuer. Ça ne me plairait pas de travailler uniquement dans le technique. Alors, j'ai fait une maturité professionnelle technique.
Et c'est dans le cadre de cette Matu Pro que vous avez créé votre société. On va en parler. Avant ça, on a un 4e invité surprise dans le studio. Vous pouvez, un de vous 3 peut nous le présenter? Il sourit. Qui se lance?
Alors, c'est un des profs qui nous a suivis pendant le projet de maturité, donc c'est Monsieur Leschen. Et puis voilà, il a été très présent avec nous dans le projet, et puis c'est pour ça qu'il est là.
Gérard Leschen, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes donc le coach, l'enseignant qui les a amenés, qui les a guidés dans ce projet. Pouvez-vous nous expliquer juste comment fonctionne le cours qui mène à la création d'une entreprise ?
Alors, pour le cours spécifique que ces 3 jeunes ont suivi, c'est essentiellement une prise en charge personnalisée. Ça veut dire qu'on les laisse créer. Ils doivent d'abord, premièrement, amener une idée. Cette idée, elle passe dans un comité de sélection. Elle est retenue ou pas. Là, on a eu la chance d'avoir leur projet qui a été retenu. Et puis, ce qui est intéressant pour l'équipe de coach, parce que je ne suis pas tout seul, hein, on est 3. Donc, l'idée, c'est que le coach va simplement donner la petite impulsion, les mettre, entre guillemets, sur le bon chemin. Et à partir de là, ce que j'ai remarqué avec ces jeunes, c'est qu'on a toujours un leader naturel ou plusieurs leaders naturels qui vont se développer.
Parce qu'ils étaient 11 à la base.
Ils étaient 11 à la base, voilà. Et les 3 qui restent, eh bien, ça ne me surprend pas du tout parce que c'est des gens qui ont tout de suite mordu au projet, qui se sont donnés, qui se sont investis. Et le résultat, c'est que 2 ans après, le projet continue, va se développer. Et puis pour moi, coach, je suis très content. C'est comme une équipe de sportifs. Sauf qu'on ne fait pas du sport, mais de l'entreprise. Et c'est magnifique.
Chaque année, il y a une volée. Chaque année, il y a un travail de ce type. Combien de sociétés existent encore aujourd'hui?
Alors, à ma connaissance, c'est probablement la seule qui reste. Il y en a encore une autre qui était l'année passée, mais là, j'ai pas de contact. Donc, c'est clair que pour nous, c'est toujours bien d'avoir un petit retour. Ces jeunes, on les a accompagnés, on les a vus grandir, on les a vus se développer, s'affirmer. Et puis, à quelque part, eh bien, quand on a une équipe comme Steve, Marek et puis Simon, eh bien, ça fait plaisir de les retrouver 2 ans après, toujours en pleine forme, toujours avec le sourire, la motivation, la niaque, comme on dit chez nous.
C'est la seule entreprise qui reste. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces 3 jeunes?
Alors, premièrement, ils ont fait honneur au prix qu'ils ont reçu. Donc, ils ont été honorés par le prix Louis Lachat, donc pour les jeunes entrepreneurs. Ensuite de quoi, eh ben, évidemment, en faisant honneur à ce prix, c'est pas simplement empocher l'argent puis se dire, ben voilà, c'est l'occasion de faire une bonne bouffe, une bonne Saint-Martin, mais c'est surtout l'occasion de continuer, de poursuivre l'aventure d'entreprise, et puis peut-être qu'on aura, comme vous le disiez en préambule, un nouveau Steve Jobs dans une maison, pourquoi pas.
Le professeur est dithyrambique sur ses anciens élèves. Hein. C'est vous, sans secours, vous pensez que vous auriez aussitôt une envie d'entreprendre, de créer une entreprise? Ça a été un déclic pour vous, ce cours?
Ben, disons que c'est un projet où on s'est investi aussi. C'est dans le cas de la maturité, on était un peu obligé de s'investir. Après, ça s'est vite fait machinalement, quoi. Mais au début, c'est vrai que je serais pas parti tout seul de mon côté, quoi.
Je pense que effectivement, sans le cours, on n'aurait même pas eu cette idée-là. Et puis, ça nous a vraiment forcé et puis comment mis l'eau à la bouche. Puis après, comme a dit Steve, c'est venu naturellement. On a travaillé ce qu'il fallait et puis voilà. Mais je veux dire, sans ce cours, sans cette impulsion, on ne serait pas là aujourd'hui.
Quoi. Aujourd'hui, vous êtes toujours en contact avec le coach?
Alors, on a contact de temps en temps, mais c'est vrai que beaucoup moins que pendant les cours. Quoi.
On va parler avec vous de la gestion de la société aujourd'hui, aussi du succès du système dual dont vous êtes l'épreuve vivante. Mais on va s'intéresser maintenant au produit, l'EcoSound, un amplificateur de son entièrement en bois. On met son téléphone dans une fente et ça se transforme en haut-parleur. Marek, vous avez reçu Jean-Michel Probst, là où les EcoSound sont conçus, à l'EFEGE, l'espace formation emploi du canton du Jura, un centre cantonal d'amélioration des compétences destiné aux demandeurs d'emploi.
Sortie de boîte.
Alors pour nous, c'était quelque chose d'important de travailler avec une entreprise de la région. Donc l'EFEGE était un parfait candidat pour fabriquer nos EcoSound. De plus, ils forment des chômeurs dans des nouveaux métiers. Donc en plus de ça, on fait un travail à peu près social qui nous permet d'avoir un argument sur nos produits.
On peut entrer?
Oui, bien sûr.
Là, c'est un véritable atelier bois, donc hein, c'est entièrement en bois, du bois de la région.
Alors oui, effectivement, c'est du bois de la région, donc qui vient des forêts jurassiennes, c'est de l'épicéa. Pour le choix du bois, on a décidé de prendre l'épicéa parce qu'on est allé voir un luthier, donc les personnes qui fabriquent les guitares et les violons. Et c'est lui qui nous a aiguillé un peu sur le prototype, sur quelle base de produit il fallait partir et quel bois il fallait prendre. Et on est parti suite à des prototypes qu'on a fabriqués nous-mêmes sur un produit final qui est fabriqué ici.
Alors il y a un responsable d'atelier qu'on va rencontrer là, c'est Thierry Barthes.
Oui, exactement, oui.
Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors c'est ici que l'on construit ces fameux EcoSound. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça se passe au niveau de la chaîne de construction?
Alors la chaîne de construction commence par l'achat du bois dans les scieries de la région. Aller le choisir en fonction de la demande du client. Et puis après, débitage, rabotage, mise en façon sur la CNC. Après assemblage, ponçage, giclage, gravage, c'est toute il y a une vingtaine d'opérations différentes.
Mmh. Alors les dimensions, c'est une, je sais pas, quarantaine de centimètres sur 15 centimètres.
Oui, ils font 40 sur 120 sur 50.
Et ça aussi, ça a été étudié au niveau de la grandeur de cette caisse?
Ça n'a pas été étudié avec des calculs très savants, mais plutôt par des tests qu'on a réalisés chez mon collègue Steve, donc dans son garage, qui est un peu un fou du bois, amoureux du bois, et qui a fait ça pendant son temps libre. Il a fait plusieurs prototypes, et on est arrivé sur le produit final comme ça. Donc pas forcément des calculs très, très poussés, mais plutôt des tests.
Donc les premières de ces boîtes ont été entièrement façonnées à la main, je dis.
Exactement, oui, à la défonceuse et entièrement manuelle, sans CNC, dans un garage.
Si on parle un petit peu de cette boîte, il y a une petite fente où on met le téléphone portable, et puis il y a 2 grands trous qui vont amener la résonance.
Oui, alors le bois est façonné d'une façon que en fait, la fente au début est très fine, et ça devient toujours plus grand. Et ça permet au son de résonner, donc à taper dans le bois et à résonner grâce à la résonance du bois. Et le son sort des 2 côtés du haut-parleur.
De retour dans notre studio de Delémont avec les trois entrepreneurs d'EcoSound, Marek Hoffmeyer, Simon Lièvre et Steve Rolla. On a un de ces appareils là, pendant que je pose une ou deux questions à Steve, faites-nous une petite démo, mettez-nous un petit fond sonore. Steve, le fou du bois, comme on a pu l'entendre dans le reportage, ça vous convient comme description, fou du bois?
Ouais, j'ai toujours touché au bois, quoi. C'est mon grand-père était garde forestier, mon père est garde forestier, on a toujours eu un contact avec le bois, et puis...
Ça vient vraiment, c'est familial en fait.
Ouais, c'est familial, oui.
Ouais, vous avez jamais envisagé de faire travailler ailleurs que dans quelque chose en lien avec le bois?
Bah, la construction, de par mon métier, je suis quand même un peu à côté, mais la construction au bois, pourquoi pas pour la suite, quoi.
Du coup, au moment de concevoir cet ampli, cet EcoSound, les étapes, ça s'est passé comment? On commence par quoi, des dessins?
Oui, par des dessins à l'ordinateur, en tant que dessinateur, ben, des idées. On esquisse les idées qu'on a. On part et puis après, réalisation des idées selon les plans qui ont été faits préalablement.
Et on parlait de tests dans le reportage. Combien d'essais, combien de tests avant d'arriver à quelque chose qui est satisfaisant?
Il y a eu, je pense, 3-4 essais.
Ah, ça va encore. On n'est pas dans la vingtaine de prototypes qui rentrent cinglés.
Non, c'est vrai. Après, on a eu un temps assez court aussi.
Il y a eu un contact avec un luthier, on l'a aussi entendu. Comment ça s'est passé? Ça vous a apporté quoi?
Ben, le luthier, il nous a apporté des idées sans nous donner des solutions. Lui, c'était son idée. S'il ne voulait pas tout vendre, ouais, pas tout nous dire, faites comme ça, comme ça. Il nous a expliqué en gros les bois qu'on pouvait utiliser, un peu les formes qu'on pouvait utiliser. Mais il nous a dit après, il faut faire des essais.
Et lui, il vous a reçu comment? Il a trouvé la démarche étrange, trois jeunes qui arrivent, bonjour, on fait un ampli en bois, on a besoin de conseils.
Au début, oui, il a trouvé ça assez étrange. Et puis après, parce qu'on est réité, une fois qu'on a eu fini, il était assez surpris du résultat. Ouais.
Marek, c'est bon, vous avez préparé la playlist, le fond sonore?
Oui.
Allez, on fait une petite démo de l'EcoSound qui est sur la table en studio. Gérard Leschen, ne soyez pas surpris, le son va arriver. Vous êtes l'enseignant qui a suivi ce projet. Ah voilà, écoute, alors on a donc le téléphone là, sans l'amplification. Et on le met dans l'appareil. Voilà. Programmation musicale faite par les entrepreneurs d'EcoSound qui sont nos invités ce soir. Merci beaucoup. Gérard Leschen, oui. Vous avez suivi, vous, le projet de A à Z. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Qu'est-ce qu'il avait de particulier, la conception de cet EcoSound?
Alors, au départ, on est parti du principe que, où c'était très innovant, c'était la matière bois, puisque par définition, ces amplificateurs existent souvent sous forme de gadgets, certainement très bon marché, made in China, et puis là on a dit on va essayer de mettre en valeur les ressources naturelles régionales, donc on a du bois ici dans le Jura, on a des jeunes qui ont des idées, pourquoi pas essayer de faire un couplage de ces deux, le bois, la matière première aussi intellectuelle, parce qu'il ne faut pas oublier que ces jeunes partent avec une table, une feuille blanche. Donc il faut amener une idée, il faut la concevoir. Steve a parlé de très peu de temps. Effectivement, le prototype définitif a été terminé fin de l'année. Et on a commencé les ventes, enfin ils ont commencé les ventes l'année suivante. Ça se termine au mois de mai. Donc on commence concrètement octobre, mai, ça fait quelques mois. Donc le temps est court, ça presse, ils ont des contingences financières, on leur met à disposition de l'argent.
Mais évidemment, combien?
Alors, tout dépend de la taille du projet, c'est maximum 5000 francs par projet.
Ça, là, c'est modeste quand même.
C'est modeste, voilà. Ça les aide surtout à démarrer. Après, évidemment, c'est pas à fond perdu. Ça veut dire que nous, objectivement, quand je dis nous, c'est toujours en référence à mes collègues, on est obligé d'attendre le retour du prêt, plus encore une petite participation financière pour... Évidemment, moi j'ai toujours été partisan de dire que ce n'est pas l'argent qui doit être le motivateur, c'est qu'est-ce que j'ai appris dans ce projet. Et je crois que ces trois jeunes sont la preuve vivante que s'ils avaient dû travailler uniquement pour l'argent, je pense qu'avec les 50 centimes de l'heure qu'ils auraient touché, ils auraient vite abandonné. Donc c'est ça que j'apprécie chez eux, c'est cette motivation qui est, entre guillemets, non financière.
Alors c'est un projet peu de temps pour le réaliser, mais le projet continue. Alors c'est une chose de le concevoir dans le cadre d'un travail de maturité, ça doit sûrement en être une autre quand les cours sont terminés. Vous étiez 11 dans la classe, aujourd'hui vous êtes plus que 3. Comment s'est passée la transition?
Alors, la transition s'est passée d'une façon assez naturelle. Et on a discuté entre nous, savoir qui était motivé à continuer, qui ne désirait pas ou n'avait plus le temps de continuer. Et puis, le choix de continuer à trois, c'est pas un choix qui a été fait par nous trois, mais plutôt les 11 étudiants qui ont décidé ensemble de s'ils voulaient continuer ou non. Donc, s'il y avait eu d'autres personnes qui étaient motivées à continuer, ils auraient pu continuer avec nous. Mmh. Et ça s'est passé d'une façon assez naturelle.
Et qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, à continuer? Parce que c'est du temps, c'est du travail, vous gagnez vraiment pas d'argent encore avec ce projet. Qu'est-ce qui vous motive?
Je pense que c'était une bonne expérience et puis c'était dommage de s'arrêter là. Moi, en tout cas, personnellement, j'avais vraiment envie de continuer parce que j'ai appris plein de choses et puis voilà, j'étais motivé simplement à continuer ce projet.
Les autres? Même chose?
Ouais, moi aussi, c'était la même chose, quoi. Je voyais pas arrêter comme ça, brusque, quoi.
Quelle organisation vous mettez en place? Parce que concrètement, aujourd'hui, vous êtes les trois dans une haute école, vous continuez d'étudier, vous êtes trois pas au même endroit, donc il faut vous réunir. Comment vous dirigez l'entreprise? Ça se passe comment, très concrètement?
Alors, début 2016, on a décidé de se répartir les tâches un peu plus distinctement, afin de pouvoir travailler plus indépendamment les uns des autres, sans devoir tout le temps demander l'accord de nos collègues pour savoir si on faisait ça comme ça ou autrement. Et puis, c'est comme ça qu'on a séparé les tâches. Par exemple, Steve s'occupe du développement et de la production. Simon s'occupe du développement informatique. Et puis, moi, je m'occupe du commercial et du marketing de l'entreprise.
Et ça fonctionne? Vous vous prenez jamais la tête?
Non, on ne s'est encore jamais pris la tête jusqu'à maintenant. Et puis, je ne pense pas que ce sera le cas dans le futur.
C'est quoi les difficultés aujourd'hui auxquelles vous êtes confrontés pour faire décoller le projet?
Je pense que c'est surtout, pour l'instant, une contrainte de temps. Comme vous l'avez dit, on est en études à côté. Et puis voilà, c'est simplement prendre le temps de bien réfléchir aux choses et puis continuer le développement.
La visibilité également, c'est un défi. Vous étiez à la foire du Jura. Quel retour, vous avez présenté votre produit à la population? Quel retour vous avez eu? Bon bilan?
Alors, pour le bilan du comptoir, on a été les trois assez contents de l'expérience que ça nous a apporté et du résultat de la visibilité que ça nous permet d'avoir. Et puis, le retour des personnes qui, par exemple, le vendredi, en ont acheté et sont repassées 2-3 jours plus tard sur le comptoir, nous ont tous fait des retours positifs du produit et tout le monde était assez content. Et vraiment, toutes les personnes qui se sont arrêtées sur le stand trouvaient que c'était un produit génial et une idée géniale. Ouais.
Et financièrement, il y a eu des retombées? Ça, vous arrivez, l'opération était bonne?
Alors oui, l'opération était rentable. On est assez content des résultats, oui.
Aujourd'hui, vous en vendez régulièrement, plusieurs par semaine. On part un peu une idée de comment ça fonctionne?
Alors, sauf événements comme la foire du Jura, c'est plutôt quelques-uns par mois.
Oui.
Et puis voilà, sinon, c'est concentré sur les événements annuels.
Donc ça reste relativement modeste. Vous ne cherchez pas à vous enrichir, vous y allez vraiment doucement?
Non, comme a dit M. Leschen, donc ce n'est pas une motivation par rapport à l'argent, c'est vraiment une expérience pour nous. Et puis, on est dans des professions techniques, on n'a peut-être pas la gestion de projet qu'il y a derrière, et puis c'est vraiment une expérience pour nous à ce niveau-là.
Donc vous continuez d'apprendre, en fait?
Oui, tout à fait.
Gérard Leschen, vous que vous continuez à garder un œil sur ce qu'ils font, un conseil que vous pourriez leur donner aujourd'hui?
Alors, déjà, j'ai été surpris, mais fort agréablement, de les retrouver à la foire du Jura. Déjà parce que non seulement ils présentaient un magnifique produit, mais en plus de ça, ils ont créé le meuble qui permettait de mettre en valeur, à tel point que je leur ai suggéré, mais si vous vendez votre EcoSound, profitez aussi de vendre votre mobilier, parce que c'est purement magnifique. Alors, je ne sais pas si le créateur du meuble qui est à côté de moi, Steve, a des idées là-dessus, mais je pense qu'effectivement, ils ont beaucoup de créativité en eux.
Mais les techniciens qui ne sont pas des vendeurs nés, c'est quelque chose qui est une réalité?
Alors, c'est justement ce qui est très intéressant dans cette formation, c'est que souvent on cherche ce qu'on appelle des technico-commerciaux. Donc ça veut dire, eux, ils ont déjà l'aspect technique, Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, donc c'est maîtrisé. Et puis, en plus de ça, dans le cadre du cours qu'on leur a mis à disposition, ils approchent le commercial. Et je crois que Simon a bien résumé la situation. Si vous avez cette opération de commerce, on apprend sur le terrain. C'est vraiment de l'empirisme. Donc, on le fait, on teste, on regarde, OK, ça n'a pas fonctionné, pourquoi, etc. Et moi, je suis toujours à disposition. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié quand on m'a sollicité pour un conseil ou l'autre, je suis toujours à disposition. Mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24, donc je n'ai pas de souci avec ça. Je réponds volontiers, surtout quand c'est des jeunes qui sont motivés, qui font vraiment plaisir à voir.
On va parler un petit peu de très rapidement de formation duale tout à l'heure. Mais là, à 18h52, c'est le moment de regarder sa montre et de retrouver Marie-Lise Saillard. Chaque semaine, elle nous fait profiter de sa chronique horlogère.
Pile à l'heure.
C'est un rendez-vous très attendu des amateurs d'horlogerie, la Biennale du patrimoine horloger. La dernière édition a eu lieu au début du mois au Locle et à la Chaux-de-Fonds. Une quarantaine de lieux ont ouvert leurs portes au public pour l'occasion. Exemple, l'atelier Cadroni dans la métropole horlogère. Et nous partons à la découverte d'une activité bien spécifique, le sertissage. Démonstration en compagnie de Laurent Fégaud, bijoutier joaillier, responsable de l'atelier.
Voilà, donc la pièce est serrée sur ce qu'on appelle un boulet, ce qui permet d'assurer une bonne stabilité.
Vous regardez au microscope ?
Alors, c'est un binoculaire microscopique, effectivement, équipé d'un zoom qui permet d'agrandir plus ou moins selon la difficulté et la grandeur des pierres qu'on doit mettre en place.
Là, vous avez pris quoi ?
Alors là, j'ai pris une échoppe de graveur. C'est un burin, ce qu'on peut dire un burin, qui va me permettre de venir en fait cueillir le diamant dans ce que vous voyez ici, la petite coupelle. Je le prends avec un petit peu de salive, ce qui permet de le coller sur l'outil et de l'amener dans son trou. Ensuite, je le positionne pour qu'il soit orienté juste, qu'il soit plat, qu'il soit positionné d'une manière idéale. Le voilà dans son trou, mais pour l'instant, il n'est pas serti, il est simplement déposé dans le trou. La prochaine chose, en fait, c'est de changer d'outil. On prend ce qu'on appelle un perloir. C'est une petite tige de métal qui est revidée d'une manière demi-sphérique à l'intérieur. Et on va englober la petite part de matière qui reste et qui s'appelle le grain. Et on la pousse fortement. On arrive à déplacer cette matière qui entre en contact avec le brillant et qui lui donne son assise et sa solidité finale.
Donc là, vous avez repoussé les coins. Donc cette fois, c'est comme des griffes qui retiennent
c'est
la pierre.
C'est comme des petites griffes qui sont formées en petites demi-boules et qui viennent effectivement tenir la pierre dans son trou, dans son logement.
Est-ce que là, votre travail est terminé ou est-ce qu'il y a encore une étape ?
Alors, il y a encore une petite étape de nettoyage. On va prendre une petite fraise boule, une petite fraise de dentiste toute fine. Et on va venir entre chaque bloc de deux grains, si on veut bien, là où l'outil a travaillé. Et on vient supprimer les petites imperfections qui peuvent exister, les petites bavures, les petites choses qui ne seraient pas bonnes pour le résultat final au niveau de l'esthétique. Et quand cette chose-là est faite, le travail de sertissage est terminé. Donc ça va partir en terminaison, si le client le souhaite. Donc on la donne à un polisseur qui lui va la faire briller, va la nettoyer, va nous la retourner avant qu'on puisse la livrer au client final.
Pile à l'heure.
Merci Marie-Louise. Pile à l'heure est à réécouter sur notre site internet en cliquant sur programme, émission et sortie de boîte. Tout comme l'entretien que nous avons eu ce soir avec nos quatre invités, Gérard Leschen, l'enseignant, et les ex-étudiants devenus entrepreneurs, Marek Hofmeyer, Steve Rolla et Simon Lièvre, responsables d'EcoSound. Dirigeant, on peut vous appeler comme ça, dirigeant ?
Moi, ça me va.
Ouais. CEO ?
Ah, c'est peut-être un peu exagéré.
Merci en tout cas d'avoir été nos invités ce soir. Très bonne soirée à vous.
Merci beaucoup, bonne soirée.
La semaine prochaine, Sortie de boîte se rend au Locle, dans une entreprise qui subit de plein fouet la conjoncture actuelle. Il s'agit de Dixie Cylindre. On en a parlé dans la presse il y a eu plus d'une semaine, suite au licenciement de 20 employés. On y reviendra avec le directeur de l'entreprise. On parlera aussi de la société, de ses produits et des pistes qui existent pour surmonter la situation actuelle. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Excellente soirée.
Sortie de boîte.